RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Qumran, 70 ans d'une découverte étonnante. Eh bien, c'est le thème aujourd'hui de l'émission préparée en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible. Trois bédouins trouvent dans une grogue des dizaines de manuscrits millénaires. C'est l'extraordinaire découverte des manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Et à 70 ans après, eh bien, le trésor scientifique et archéologique a bouleversé à la fois la connaissance de la Palestine et aussi la compréhension de la Bible. On en parle, récits et leçons de Qumran avec mes invités. Benoît Sagazan, bonjour.
Bonjour, professeur, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Le Monde de la Bible, qui, pour ce printemps, publie un dossier spécial autour des 70 ans de la découverte des manuscrits de la Mer Morte, ce qui a donné le thème de cette émission. Gérard Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris. Vous signez dans Le Monde de la Bible un article sur les effets de Qumran sur la lecture biblique.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Michael Langlois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, enseignant notamment à la Sorbonne, à l'Université de Strasbourg, ça c'est vrai.
Mais oui,
et puis ailleurs
fait.
Encore.
Oui, voilà.
Vous travaillez sur les résonances entre la Bible et l'histoire et vous êtes tout particulièrement intéressé par Qumran.
En effet.
Estelle Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue mais aussi journaliste hein, parce que vous participez très régulièrement au Monde de la Bible dans ce numéro. Vous avez mené un entretien avec Jean-Baptiste Imbert à propos de ce qui se vivait sur le site de Qumran au temps de Jésus. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un livre d'entretien avec Thomas Romer. C'était « La Bible, quelles histoires ?» C'était paru chez Bayard en 2014. Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, c'est le thème de Grand Angle et c'est tout de suite sur RCF.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayard Presse.
Alors Benoît de Sagazan, 70 ans pour Qumran, mais au regard de l'ancienneté de cette histoire, c'est comme si c'était hier cette découverte.
Oui, et ça prouve que on n'a jamais fini de relire la Bible et de retrouver de nouvelles saveurs et de renouveler son regard sur cette lecture, de la comprendre, de l'explorer.
Ça veut dire aussi que l'archéologie nous parle justement de ces textes, nous parle de...
L'archéologie d'une part, mais aussi, et Michael Langlois en parlera mieux que quiconque, l'analyse des textes, la façon même selon laquelle avec des nouvelles technologies, on arrive même à replacer ces fragments. Alors, je ne sais pas comment ils font, pour moi je trouve ça extraordinaire. Avec des miettes, ils arrivent à faire des phrases et je trouve ça extraordinaire. Et on arrive à reconstituer des textes. Et surtout, ce qui est intéressant d'ailleurs, cette aventure, moi, ce qui me passionne le plus en tant que lecteur, parce que je suis d'abord un lecteur, je ne suis pas un chercheur, c'est comment on renouvelle la lecture de la Bible, comment on comprend comment elle s'est transmise, comment à partir d'un texte, des groupes de scribes en faisaient plusieurs versions, se les transmettaient, revenaient parfois au texte, un texte plus ancien. La leçon que j'en retire, moi, personnellement, c'est que finalement, la Bible est faite pour être interprétée, que chaque génération a le devoir, finalement, de l'apprendre et puis de la transmettre, de la regarder avec ses yeux, avec sa, selon ce qu'elle vit, et c'est de l'interpréter.
Parce que c'est bien ce que montre votre dossier, où on peut penser que Qumran, voilà, c'est quelque chose de très statique, et bien non, c'était aussi... une pensée en marche, si je puis dire.
Une pensée en marche, elle est sans cesse recopiée, interprétée. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est ce que nous apprend Qumran.
Et les 70 ans aussi montrent que, on les a découverts donc il y a 70 ans. Enfin, voilà. On va en parler. Mais en même temps, encore aujourd'hui, il y a encore bien des choses à explorer.
Je crois qu'ils non seulement ils n'ont pas tout dit, mais il est possible qu'on ne connaisse pas encore même tous les manuscrits trouvés.
Michael Langlois, alors cette histoire des manuscrits de Qumran, je le disais, des bédouins qui découvrent les manuscrits. Alors les manuscrits, c'est pas effectivement, il faudra décrire un peu ce qu'ils ont véritablement trouvé. Ça, c'est le coup de chance, c'est la belle histoire, peut-être un peu la légende.
Alors c'est pas un coup de chance du tout. En fait, depuis le 19e siècle, les bédouins ratissent la région pour trouver des vestiges archéologiques. Ils savent très bien que les occidentaux sont à la recherche de vestiges notamment bibliques et il y a tout un marché de l'Antiquité déjà au 19e siècle avec des découvertes célèbres comme la stèle de Mécha qui est au Louvre qui a fait l'objet de toutes les convoitises et c'est évident que ça n'est pas par hasard, surtout quand vous regardez où est situé situer la fameuse grotte soi-disant trouvée par le bédouin, elle est pas accessible comme ça. Donc en fait, il s'agit vraiment, les bédouins sont à la recherche de ces vestiges et pour pouvoir ensuite les marchander sur le marché des antiquités.
Oui, on peut même rappeler d'ailleurs que les Bédouins étaient les guides des archéologues et des prospecteurs. Mais si oui, on peut rappeler l'histoire de cette grande prospection faite par l'académicien français Félicien de Saussy, qui dans les années 50 fait une énorme prospection. 1850, pardon. Dans les années 50, 1850, bien sûr, au 19e siècle. Passe plus d'un mois à prospecter cette zone qui est un no man's land, entre guillemets. C'est un lieu où personne ne va parce que c'est mal famé, parce qu'il y fait trop chaud, parce qu'il n'y a pas d'établissement pour accueillir. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué d'aller par là. Et qui guide les archéologues? Ce sont les Bédouins de cette tribu-là, les Tamirés. Et dans ces récits de voyage qui sont faits par Félicien de Saussy et par ses acolytes, ils racontent comment ils interrogent les Bédouins, comment le soir au coin du feu, ils se donnent pour mission de raconter chacun leurs histoires. Et on voit bien qu'ils évoquent la question des Esséniens et que cette question est connue. De toute façon, on sait déjà depuis même au Moyen-Âge, des découvertes fortuites ont été faites de rouleaux bibliques dans cette région-là. Donc il est évident que les archéologues ont interrogé les Bédouins et que les Bédouins savaient très bien ce qu'il y avait à découvrir.
Oui, et puis le site était identifié. En fait, on cherchait au 19e siècle un certain nombre de villes bibliques et on cherchait notamment l'emplacement des fameuses villes de Sodome et Gomorre. Et le site de Qumran était un des lieux possibles pour Gomorre. On a des cartes comme ça de l'époque où le site de Qumran est appelé
Gomorre.
On essaie
de reconstituer à partir de la Bible et de quelques informations, j'imagine, de ceux qui vivent sur place. Là, ça veut dire qu'en 47, c'est un coup de bol. Cette découverte. Alors, il faut préciser, il y a 11 grottes. C'est bien ça?
Oui.
Plus que ça encore.
Il y a des dizaines de grottes. Alors, en fait, toute la région, c'est des falaises.
Ouais.
C'est ce
qu'on appelle Qumran.
C'est du gruyère.
Oui.
Alors, le site de Qumran lui-même, c'est pas les grottes, en fait. Ce sont des ruines. Ce sont des ruines. Et simplement, effectivement, ces grottes ont été trouvées autour des ruines de Qumran. Mais en fait, on a trouvé d'autres grottes tout le long de la mer Morte. En fait, tout le long des rives occidentales de la mer Morte, on a des grottes dans la falaise.
Dans toutes les grottes, il n'y a pas des manuscrits.
Non, c'est ça, voilà. Alors, aux abords même de Qumran, il y a effectivement 11 grottes dans lesquelles on a trouvé des manuscrits, sachant que certaines de ces grottes se sont effondrées, que d'autres, finalement, la grotte 4, en fait, c'est deux grottes combinées. Donc, en fait, le nombre exact est difficile. Mmh. À mon avis, ce qui est important, c'est de distinguer les grottes naturelles des grottes artificielles. C'est-à-dire que, disons, si vous rayonnez autour de Qumran à 2-3 kilomètres, vous avez la falaise et vous avez tout un tas de grottes naturelles, des anfractuosités dans la roche. Mais sur le site archéologique de Qumran lui-même, en sous-sol, un peu comme vous auriez une cave en dessous de chez vous pour stocker vos bonnes bouteilles, eh bien là, sous le site de Qumran, il y avait des grottes artificielles. Et c'est ça qui a permis d'établir le lien entre les grottes et le site.
Et le site,
alors, je pense qu'on peut faire une autre distinction entre les grottes qui ont été trouvées par les archéologues. Il y a les grottes dans lesquelles ils ont trouvé des manuscrits, hein, qui sont les 11 fameuses grottes, et puis des grottes dans lesquelles ils ont trouvé des poteries brisées, des linges, qui sont tout un attirail de protection de rouleaux, mais les rouleaux avaient déjà été retirés. Donc, et là, il y en a bien plus, il y a 26 grottes. Alors, qui ont été pillées? Qu'est-ce que ça veut dire piller? Ça veut dire, en tout cas, que les rouleaux ont été retirés. Alors, et probablement, et certainement, en tout cas, pour les grottes qui ont été découvertes dans les années 1950, cette fois-ci, ces grottes-là ont été trouvées par les archéologues ou par les Bédouins, déjà vides. Mmh. Et vous avez peut-être entendu parler de cette grotte qui a été découverte, ou en tout cas, il y a eu un petit foin journalistique et médiatique autour, là, le mois dernier, une grotte qui a été trouvée vide de rouleaux. La question était de savoir si c'était les Bédouins dans les années 1950 qui les avaient trouvés, ce qui a été la première hypothèse formulée, tout simplement parce qu'une tête de piochon moderne a été trouvée. Mais il est extrêmement vraisemblable qu'en réalité, ces grottes aient déjà été trouvées par les Bédouins vides.
Donc il y a des éléments qui sont dispersés et qui étaient sur un marché privé. Bah, pour pas dire de contre-drogue.
Non, mais regardez, on sait très bien que déjà dès après les révoltes juives, les gens qui avaient caché les manuscrits sont allés les rechercher parce que après tout, donc ils les avaient cachés pour pouvoir. Donc ils ont été cachés plus tôt. On sait aussi qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est une histoire qui nous est racontée par Eusèbe de Césarée, un auteur du IVe siècle. On sait que au deuxième siècle, des Bédouins ont trouvé cachés dans une poterie des rouleaux de la Bible. Donc cette histoire de rouleaux trouvés dans des jarres est connue depuis extrêmement longtemps. Et en fait, finalement, les Bédouins n'ont jamais resservi aux archéologues que les histoires que les archéologues attendaient.
Oui, bien sûr. Et puis, ça vaut peut-être le coup de préciser que déjà dans la Bible, dans le livre de Jérémie, il est fait mention de placer un manuscrit dans une jarre pour qu'il se conserve. Donc, c'est pas un procédé nouveau.
Bon, alors ça, c'est ce qu'on trouve au XXe siècle. Et puis, avec les traces qu'on avait déjà auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, il y a 2000 ans, pour qu'on planque tous ces manuscrits? Il y avait déjà, vous parliez de la ville de Qumran, dont il ne reste que des ruines. Qui vivait là? Pourquoi ils ont planqué la Bible? Alors, qui veut...
Non, c'est pas que la même ville, c'est vrai.
C'est ça.
Je voyais Estelle réagir.
J'y suis pas allé, racontez-moi à vous.
Alors, Khilbet, pour expliquer, Khilbet Qumran, puisque c'est le nom topographique, Khilbet en arabe veut dire ruine. Mais c'est une ruine qui fait, quoi, 20-30 mètres de côté maximum. Donc, une espèce de grand fortin carré au centre, et puis des ruines vagues d'installations tout autour. Mais c'est extrêmement
petit.
Là,
ça, on le sait un petit peu déjà.
Ah, ben ça, c'est toute la question. Bon. Ça, c'est toute la question.
Alors, je l'ai posée, mais à vous la réponse.
Alors, quand les archéologues ont découvert ça, les ont fouillés dans les années 50, c'est vrai qu'une des premières hypothèses qu'ils ont faites, qui était une hypothèse normale, hein, l'hypothèse scientifique, c'est de tester l'idée que c'était des Esséniens. Alors, pourquoi des Esséniens?
Rapidement, oui.
Pourquoi des Esséniens? Les Esséniens sont une communauté qui est connue par les textes, connue par les auteurs anciens, et Michael pourra nous en dire quelques phrases tout à l'heure, et qui sont une communauté un petit peu à part dans le judaïsme antique, extrêmement pieuse, rigoureuse.
Quasiment une secte.
Bah, une secte, c'est le terme qu'on utilise, qui est une traduction qui aujourd'hui est un peu biaisée, parce que dans secte, on imagine des gens alors qu'en réalité...
Un peu fermée. Une communauté un peu fermée.
Ce qui est une traduction...
Un peu rapide,
qui ne correspondrait pas sociologiquement à ce que c'était dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, c'était un courant, un mouvement. Voilà. On pourrait dire que dans ce cas-là, que le protestantisme et le catholicisme seraient les sectes. Vous voyez, le terme n'est pas adéquat. Dans l'Antiquité, c'était de cet ordre-là.
Oui, surtout, c'est l'une des trois grandes mouvances du judaïsme à l'époque. On a les pharisiens, on a les sadducéens et on a les esséniens. Mm-hmm. Ça, c'est ce que nous dit Flavius Joseph. Et on nous dit aussi qu'il y a des esséniens partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. Donc, il ne faut surtout pas imaginer que les esséniens, c'était un groupuscule fermé, sectaire, inconnu. C'était vraiment un des trois grands partis religieux de la Judée à l'époque. Donc, ils avaient pignon sur rue, comme on dit.
Et dont Gérard Billon, je vous pose la question rapidement, on incise. Est-ce que Jésus faisait partie des Esséniens ou pas? C'est encore une grande question.
Il y a une énigme pour les auteurs du Nouveau Testament, enfin pour les études du Nouveau Testament, c'est qu'on nous parle des pharisiens, on nous parle des sadducéens.
Mais on ne parle jamais des Esséniens.
Mais on ne parle jamais des Esséniens. Voilà. Alors après, dans le boom des découvertes de Qumran et des découvertes ensuite de l'examen des textes, parce qu'il y en a certains, il y a certains textes qui sont typiquement esséniens. Il y a aucun problème. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Dans le boom, on a dit, on a fait des rapprochements sur, par exemple, sur les ablutions, sur le baptême ou sur les sacrifices entre Jésus, Jean-Baptiste et les esséniens. Aujourd'hui, tout ça, c'est du pipeau, Voilà. Mais ça reste une énigme. Comment se fait-il que les auteurs du Nouveau Testament ne parlent jamais des Esséniens, alors qu'il parle abondamment des pharisiens, sans on sait à peu près pourquoi, qu'il parle des baptistes, qu'il parle des sadducéens.
Et pourquoi pas les Esséniens? Alors, Michael Langlois a peut-être la réponse.
Bien sûr, moi j'ai une idée sur la question. Et en fait, je pense qu'ils ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament précisément parce que c'est le groupe dont les auteurs du Nouveau Testament sont les plus proches. Et donc c'est la vraie concurrence. Les pharisiens, les sadducéens ne représentent pas une vraie menace ou une vraie concurrence pour les nazoréens, donc les premiers disciples de Jésus, alors que les Esséniens, oui. Donc c'est justement le fait qu'ils ne soient pas mentionnés, c'est énorme. Pour moi, c'est vraiment très gros et ça montre montre vraiment la rivalité entre les Esséniens et les Nazoréens.
Alors que pour Gérard Villon, c'est peut-être justement l'inverse.
Je la contesterai, mais ouais. Je la contesterai parce que le groupe duquel les chrétiens sont les plus proches, ce serait plutôt les pharisiens. Voilà, c'est au moins la
Et s'ils sont loin des Esséniens, il n'y a pas de concurrence. Et bon. Oui. Ben bref, la question est ouverte.
Mais là encore, moi,
Elle est en discussion. Ouais. Voilà. Notre échange pourrait le montrer. Ouais. Voilà.
Moi, je crois pas du tout que la plupart des chrétiens soient issus des pharisiens. Paul, oui, il le revendique. Il dit, je suis pharisien. Mais les premiers chrétiens.
J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait discussion. Ouais. J'ai dit que le pharisien et chrétien sont les frères ennemis. C'est-à-dire qu'après la chute du temple, et on va y revenir parce que ça concerne quand même
l'histoire.
L'histoire de Qumran, qu'après la chute du temple, il ne reste plus dans le judaïsme parmi la multiplicité des groupes. C'est le judaïsme du temps de Jésus est un judaïsme très divers, très diversifié, avec beaucoup de
très
mouvements,
de
très éclectique, de beaucoup de tensions. Mais après la chute du temple, il ne reste, j'allais dire, que deux mouvements importants, structurés intellectuellement et spirituellement, les pharisiens et les chrétiens. Mmh. Et alors à ce moment-là, ces deux mouvements-là vont devenir antagonistes. Ils ont la même racine.
Ouais, mais qui sont proches notamment par exemple par rapport à la résurrection.
Alors, entre autres, mais c'est également sur l'interprétation de la Torah, l'interprétation des textes fondateurs.
Revenons à Qumran. Donc vit là une communauté.
Oui, alors une communauté. Vivent là des gens. Les archéologues ne savent pas encore qui c'est. Bon, si le père Devaux, qui est le fouilleur qui a mené cette entreprise-là, dominicain de l'école biblique et archéologique française, s'il a pensé aux Esséniens, c'est parce que les sources anciennes nous disent que des Esséniens vivaient dans la région. Et parce que la première lecture des textes, de ces premiers manuscrits trouvés dans la grotte 1, correspondent à ce que l'on connaît de leur pensée, de leur organisation, etc. Donc, la première chose à postuler, et c'est une démarche parfaitement scientifique, on part de ce qu'on sait et on teste l'hypothèse. Et que le père Devaux a considéré que ce qu'il trouvait sur le site validait, en tout cas, n'était pas en opposition avec l'hypothèse. Ma foi, il est arrivé à cette conclusion-là, il l'a défendue, et cette conclusion a été reprise extrêmement largement, à tel point qu'elle reste aujourd'hui encore l'explication du site que vous allez, si vous allez visiter Qumran aujourd'hui, vous visiterez la ruine selon le scénario du père Devaux, de Félavive Joseph, etc., etc.
C'est-à-dire, Michael Langlois, d'une communauté.
Qu'on a dit monastique, mais en fait, parce que c'est le père Devaux qui l'a...
Non,
c'est...
le père Devaux n'a jamais mentionné, mais il est tellement explicite, c'est-à-dire que c'est une communauté qui vivait entre elles,
dimension communautaire,
avec des repas, avec des salles à manger, avec des repas et dans un office, il a trouvé un monceau de vaisselle. Et les textes parlent de repas que la communauté prenait entre elles et en état de pureté, en échangeant le pain et le vin. Une des raisons pour lesquelles aussi le christianisme a été sollicité comme partenaire un petit peu de ces Esséniens. Il a trouvé également très intéressant dans le bâtiment carré central, le premier étage s'était effondré et dans l'effondrement du premier étage, il a trouvé des encriers et puis une espèce de grande table plâtrée enduite et il a naturellement interprété ça comme le scriptorium
entre guillemets.
Ça nous vient des moines quand même.
Mais oui, d'accord. Donc en fait, tout l'univers culturel qu'on peut restituer derrière le vocabulaire qu'il utilise est un univers monastique. Mais lui ne parle jamais, ne dit jamais le mot monastère ou
évidemment,
moine.
Évidemment, ce serait un peu.
Mais il n'empêche que c'est quand même son cadre
de pensée. Voilà. Mais Michael Langlois, en même temps, on a l'impression, vous le disiez tout à l'heure, les Esséniens existaient dans toute la population juive. Là, c'est vraiment le cœur, le centre, ou c'est par hasard le seul lieu dont il nous reste trace?
Alors, d'une part, c'est pas le seul lieu dont il nous reste trace des Esséniens. On a des fouilles archéologiques à Jérusalem avec des quartiers, des bâtiments, des mikvaot, donc c'est-à-dire des lieux de baptême ou d'immersion, disons, de bains rituels esséniens. Donc on a d'autres traces des Esséniens d'un point de vue archéologique. Disons que d'abord l'hypothèse essénienne, Roland Devaux s'est simplement contenté de reprendre celle qui avait été avancée par Dupont-Somère, parce que Dupont-Somère a été le premier à avancer l'hypothèse avec Soukenik à peu près au même moment à Jérusalem. même. Et donc, effectivement, le Roland de Vaux a dit, tiens, c'est une bonne théorie, parce que les textes eux-mêmes, effectivement, s'inscrivaient le mieux dans l'idéologie essénienne. Quand on vous dit, il y a trois grands mouvements, les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, et que les premiers textes qu'on trouve, eh bien, correspondent le mieux à l'idéologie essénienne, on se dit, bah, manifestement, on a affaire à une communauté essénienne. Après, effectivement, cette hypothèse, elle a été contestée. On dira, ah oui, mais regardez, voilà, par exemple, dans certaines sources, on nous dit que les esséniens sont partout, qu'ils sont en ville. Or là, on est dans une communauté éloignée, on est dans le désert. Ça correspond pas du tout aux esséniens. En fait, je pense que c'est des gens qui connaissent mal la documentation sur les esséniens, parce que d'après les témoignages antiques eux-mêmes, à commencer par Flavius Joseph, mais également Philon d'Alexandrie, Pline, etc., en fait, on voit qu'on a une image assez diversifiée des esséniens. On nous dit, certains vivent reculés, d'autres vivent en ville, certains sont mariés, certains prônent le célibat. Donc en fait, on se rend compte, on se dit, ah oui, donc en fait, même au sein même de ce grand mouvement qu'on pourrait appeler essénien avec un grand chapeau, en fait, il y a plusieurs types, plusieurs modes de vie esséniens. Et ce qu'on a là, vraisemblablement, c'est un de ces types de communautés esséniennes.
Un peu plus intellectuel, peut-être? Ou pas du tout. Je fais le rapprochement avec les manuscrits.
En tout cas, effectivement, il y a une grande culture d'écriture. On a fait le lien entre les grottes et le site lui-même, parce que sur le site, on a retrouvé un débris de poterie inscrit. Alors, c'est assez courant dans l'Antiquité. Vous avez chez vous des pots de farine, des pots de sel. Vous inscrivez une petite étiquette dessus. Ça, c'est la farine, ça, c'est l'huile. Dans l'Antiquité aussi, on faisait ça. Et simplement, en général, on écrit avec des grosses lettres, pas très agiles. Sauf que là, on en a trouvé une où l'écriture sur la jarre elle-même était celle d'un scribe professionnel. Et le tesson a été retrouvé sur le site même de Qumran. Donc ça prouve bien qu'on avait bien sur place des scribes professionnels.
Qu'est-ce qui se passe et quand les années 70, on parlait de la destruction du temple, pour qu'il y ait besoin d'enfouir tous ces manuscrits?
Alors, ils n'ont pas tous été enfouis d'abord. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut distinguer des grottes naturelles et des grottes artificielles, c'est que autant, effectivement, dans une grotte artificielle, on peut cacher à la va-vite. On a sur son dos un certain nombre de choses. On dit vite, 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 où est-ce qu'il y a une petite grotte naturelle? On va planquer ça dans les grottes. Alors que les grottes qui sont sur le site lui-même, en sous-sol, bah, il faut les creuser, il faut les aménager. Les parois sont lissées. Il y a des sortes de bibliothèques, des étagères. Donc, en fait,
c'est un lieu de conservation davantage.
Oui, c'est ça. À mon avis, dans un cas, on a un lieu de conservation, un peu comme quand vous avez dans toutes les grandes bibliothèques où en sous-sol, vous avez les réserves. Vous allez chercher les rouleaux, vous n'avez pas besoin au quotidien. Et puis, de l'autre côté, vous avez des grottes à quelques kilomètres, voire beaucoup plus loin, où là, on a pu effectivement cacher à la va-vite. Lors de la guerre, les Romains arrivent, on s'enfuit, on se dirige vers la mer Morte. Il faut trouver un lieu de refuge. Et là, on peut utiliser ces grottes-là.
C'est le Villeneuve.
On montre quand même, à la va-vite est un terme peut-être un peu rapide, parce qu'on voit bien dans le matériel archéologique
On sent qu'il y a un sujet de débat, là.
C'est l'humour de Benoît de Sagazan qui fait remarquer que parler de rapidité à la va-vite, c'est évidemment... c'est qu'il a fallu quand même prendre le temps de réaliser l'ensemble des poteries qui ont servi à la conservation, et puis les tissages, parce que tous ces rouleaux, on le voit au matériel qui a été laissé par les récupérateurs, tous ces rouleaux étaient enveloppés dans des toiles qui étaient tissées. Mireille Bélis, qui est l'archéologue qui a étudié tout ce matériel-là de façon très précise, a montré que chaque toile était tissée avec des raies de couleur indigo spécifiques, et que peut-être, elle met l'hypothèse que, en fait, en fonction des rouleaux qui étaient conservés, on avait des sortes de moyens mnémotechniques pour les retrouver ensuite. C'est très intéressant, son étude. Et donc, tout cela prend du temps. Donc, l'entreprise de la cache a été pensée, quand même. Alors, elle montre qu'il y a, à un moment...
En des temps troublés, donc.
En des temps troublés, en prévision. Il y avait une menace, de toute façon. La guerre, la révolte grondait déjà depuis des dizaines d'années. Donc, que cette chose a été pensée.
Là encore, je suis pas forcément convaincu, parce que bah justement là, dans les dernières publications qu'on a fait de la collection norvégienne, on a aussi des tissus qu'on a analysés. On a une spécialiste des tissus, Naama Soukenik, à Jérusalem. En fait, je pense que les tissus, de toute façon, ils étaient utilisés même dans les cas où les manuscrits étaient pas forcément cachés. C'est-à-dire que pour la conservation, on avait des étuis, et notamment des étuis en tissu et en cuir. Donc pourquoi pas. Les jarres elles-mêmes, il y a le grand débat, c'est de savoir est-ce que c'est des jarres à manuscrits qui ont, dont la forme elle-même, elles ont été conçues, créées exprès pour des manuscrits. Là encore, les études les plus récentes qu'on fait, et notamment ma collègue John Taylor à Londres, en fait, montrent que probablement pas, ce sont des jarres qui servaient à autre chose et qui sont en fait pas très adaptées au stockage de manuscrits. Alors, ça, c'est débattu à l'heure actuelle, mais.
Oui, c'est débattu parce que le grand problème, c'est que ces jarres-là, on les trouve ailleurs, on ne les trouve pas ailleurs qu'à Qumran et dans ce contexte-là.
On en a trouvé à Jéricho, du coup, justement, oui. dans les années 2000, tout ça. Donc,
alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que justement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les manuscrits nous sont arrivés jusqu'à maintenant. Est-ce que ça veut dire que pendant 2000 ans, ils ont été quasiment oubliés, quasiment perdu aussi, que personne n'y pensait.
Bon, on a des témoignages. On a des témoignages de temps en temps ponctuellement. Estelle Villeneuve l'a dit tout à l'heure, dans l'Antiquité, où
on sait que ça existe.
Eusèbe de Césarée dit, tiens, voilà, il y a des grottes au bord de la mer Morte avec des manuscrits, des gens y sont allés. Un peu plus tard, on a aussi un métropolite qui dit, ah, mais voilà, il y a des grottes avec des manuscrits. Grosse fois tant, c'est tous les 800 ans à peu près, disons, que quelqu'un fait une allusion au fait qu'il y a des grottes avec éventuellement des manuscrits. Donc, c'était pas un lieu où on allait régulièrement, en tout cas, chercher des manuscrits. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pu y avoir effectivement dans l'Antiquité, de temps en temps, quelqu'un qui est venu prendre un manuscrit ou pourquoi pas déposer un manuscrit.
Il y a d'ailleurs dans les prospections, ils ont trouvé du matériel archéologique, en tout cas des objets laissés qui jusqu'au XVIIIe siècle. Mm-hmm. Au XVIIIe siècle encore. Alors ils n'ont pas mentionné, je veux dire, il n'y a pas eu ensuite de rapport historique nous disant qu'ils ont trouvé des. Mais il n'empêche que les archéologues ont montré des traces de passage à cette époque-là. Donc il y a toujours eu du passage.
Mm-hmm. On les découvre en 47 et on a plein de choses à lire. On en parle après la musique.
Plus rien n'avait vous demandé. Que chacun garde ses problèmes, qu'importe encore il va neiger, qu'importe encore il va pleuvoir. Des chevaliers il y en a plus, chacun pour soi et puis quand même, chante pour vous la chanteuse des rues, sur le trottoir pour ceux qui s'aiment. Elle va ainsi en promenant. Une chanson à tort à temps qui ne rime à rien du tout, mais qui charme pourtant l'inconnu qui s'en fout. Et demain, tout le monde la chantera dans la rue, sans le savoir, sans le vouloir, sans l'apprendre non plus. Une chanson à tort à temps. Ça traverse les murs, c'est l'histoire d'amour d'une fille ou d'un dur, mais l'histoire on l'oublie, c'est un air qu'on retient, une chanson à trois temps, voilà qui est parisien, une chanson à trois temps. Ce fut un jour comme tant d'autres, une étrangère vint à Paris. Elle avait cru au bel apôtre des joies faciles de cette vie. Il l'installa au bord du fleuve dans un palais gris. Et lui laissant sa cape neuve, il la laissa pour toute la vie. Voilà qu'elle traîne maintenant. Un chagrin à trois temps, plus pénible que tout, qui s'affirme en rappelant qu'il y a des gens qui s'en foutent du printemps, des oiseaux, des filles, qui croient à tout. Un chagrin à trois temps, mais qui rime à beaucoup, elle pourra en crever. Dans un an ou dans trois, mais personne autour d'elle ne s'en apercevra, car une histoire on oublie, c'est un air qu'on retient, un chagrin à trois temps, voilà qui est parisien,
Une chanson à trois temps, c'est Edith Piaf qui chantait ça en 1947, pendant que d'autres, en 1947, trouvaient les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte à Qumran. C'était il y a 70 ans. On en parle avec Gérard Billon, Michael Langlois, Estelle Villeneuve et Benoît Sagazan. Alors, dans cette première partie d'émission, on a essayé, Benoît Sagazan, de voir un petit peu justement cette découverte, le pourquoi de ces manuscrits qui étaient enfouis. On sent que c'est pour les archéologues ici présent, et pour tous les archéologues, j'imagine, à la fois très passionnant et très controversé aussi, parce qu'on est sur des choses avec beaucoup d'hypothèses, finalement.
Beaucoup d'hypothèses, puis des nouvelles technologies qui nous apprennent beaucoup. Là, on a un petit peu abordé les analyses minérales, mais même sur les manuscrits aussi, il y a des analyses de minéraux, de savoir où ils ont été produits, où ils ont été conservés, de quelle grotte ils viennent.
D'où vient l'encre.
Tout ça, c'est riche d'enseignements. Et puis, il y a des nouveaux manuscrits qui apparaissent dans des collections, notamment les collections privées. La Michael Langlois connaît bien les collections norvégiennes, notamment, que nous citons dans notre dossier, qui est donc avec des acquisitions récentes de manuscrits qui viennent d'antiquaires, des descendants de collectionneurs qui cèdent à nouveau leurs manuscrits, qui les mettent sur le marché de l'art. Voilà, donc on apprend constamment, donc c'est absolument fascinant. Et pour un journaliste comme moi, c'est du petit lait, quoi. C'est des merveilleux.
Journaliste d'investigation.
Voilà. D'investigation. Les vrais investigateurs, c'est les archéologues et les exégètes, ceux qui travaillent les textes.
Alors justement, travaillons les textes. Qu'est-ce qu'on trouve qui a emballé tout le monde à ce point? Il y a à peu près un millier de manuscrits qui sont recensés, c'est bien ça, Michael?
Oui, un millier sur l'ensemble des manuscrits de la Mer Morte. C'est difficile de compter parce que c'est plein de petits fragments, il faut les rassembler. Bon. Donc le nombre de manuscrits, on ne va pas se battre sur le chiffre.
Benoît Sagazan, oui, maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que nous disent ces manuscrits.
Tout à fait. Mais c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt nos spécialistes.
Ils vont nous expliquer.
J'ouvre grand mes oreilles.
Ce qui est surprenant aussi pour le journaliste, j'imagine, oui, c'est de voir que, oui, il y a de la matière, mais en même temps, il y a plein, enfin, c'est un gruyère.
Et puis il y a eu des sujets de fantasmes. Le maître de justice a fait fantasmer beaucoup de monde.
Alors, on va rentrer dans le mystère de ces textes, Michael Langlois, vous commencez peut-être.
Il faut peut-être Gérard Billon. Un petit peu, très brièvement, qu'il y a trois ou quatre catégories de textes.
Alors dites-nous, oui.
Parce que, par exemple, Benoît vient de parler du maître de justice, alors qui, de fait, fait fantasmer.
Il faudra qu'on y revienne, parce que moi, je ne connais pas le
maître de justice. Alors on y reviendra, mais ça, c'est évoqué dans une partie des manuscrits qui sont typiquement dits esséniens, dont on avait déjà des exemples auparavant.
Par ailleurs. Hein.
Ça, c'est une première catégorie, donc qui sont liés aux esséniens. Il y a une deuxième catégorie qui sont des textes bibliques. Mais même des textes bibliques, et pour moi, Biblie, c'est ça qui est le plus important.
Vous allez nous en parler.
En plusieurs versions, dès le début dans la grotte 1, on a trouvé deux manuscrits différents d'Isaïe. C'est-à-dire que c'est bien d'Isaïe, c'est à peu près le même texte, mais justement, l'intérêt, ce n'est pas tout à fait le même texte. Alors ça, c'est extrêmement intéressant sur la transmission des manuscrits. Et puis, on a une troisième catégorie qui sont des œuvres qui sont, alors après, je ne sais pas si vous les appelez parabibliques, péribibliques ou pas, mais c'est-à-dire qui parlent de personnages, le personnage d'Enoch, le personnage de Mathusalem, ou à un certain nombre d'autres, ou le personnage de Moïse, donc qui disent d'autres légendes, d'autres histoires, d'autres textes que ceux qui ont été recueillis dans la Bible, par les juifs d'une part et par les chrétiens d'autre part. Voilà les trois grandes catégories.
Mais
moi, je m'intéresse beaucoup au premier, hein, c'est-à-dire les textes bibliques.
Bien sûr, vous allez nous en parler, mais soyons clairs, rien sur Jésus et les Nazoréens.
Ah non, rien, non. Voilà. Rien de rien, non, rien de rien, je ne regrette rien.
Michael Langlois, alors, ces manuscrits contiennent quoi? On a vu déjà trois grandes classifications, comment on peut en parler encore? Et puis après, on reviendra justement sur ce qu'ils nous disent de la Bible.
Oui, alors effectivement, ce sont des manuscrits religieux. C'est important de le dire, parce que moi, en tant qu'épigraphiste,
c'est pas des listes de courses.
Exactement, j'ai plein des centaines de documents de la même époque, qui sont des textes comptables, administratifs. Là, à part quelques rares exceptions, on a bien affaire à des textes religieux qui s'inscrivent dans le judaïsme de l'époque, et c'est le judaïsme du tournant de notre ère. C'est le judaïsme qui voit naître le christianisme. Et donc, forcément, même si Jésus n'est pas mentionné dans ces manuscrits, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, de dire, tiens, après tout...
Un petit air d'interprétation de l'époque.
Est-ce que ce serait pas, effectivement, voir ce qui se passe à l'époque? Alors, quand je dis Jésus n'est pas mentionné. Il y a même eu des débats à un moment donné dans une des grottes, la grotte 7, qui contient que des fragments grecs. On a voulu voir un fragment d'un évangile, d'une épître, etc. Mais si vous voulez, c'était des petites miettes avec un, imaginez un petit confetti de 1 cm de côté avec 3-4 lettres. Voilà, c'est ça qui se battent en duel. Et on dit, ah, ça y est, j'ai trouvé l'évangile. Ça peut être ce que vous voulez, hein, à ce niveau-là. C'était surtout pour faire preuve de sensationnalisme.
Gérard Billon est dubitatif.
Mais la raison.
Là, au moins, nous sommes d'accord.
Non, mais surtout que maintenant, ces petits fragments, on les a rapprochés, on se rend compte qu'ils faisaient partie du même manuscrit et que c'était vraisemblablement le manuscrit d'Enoch, hein, du livre d'Enoch. Mm-hmm. Donc, on a affaire à des manuscrits qui nous parlent du judaïsme de l'époque, donc forcément des manuscrits de livres qu'on connaissait déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible en tant que telle, elle n'existait pas à l'époque en tant que livre complet, c'était une bibliothèque avec plein d'ouvrages, donc certains livres qui vont plus tard se retrouver dans notre Bible, d'autres qu'on connaissait mais qui ne se sont pas retrouvés dans notre Bible parce qu'on les a exclus, par exemple le livre d'Enoch qui s'est retrouvé dans la Bible d'Éthiopie mais pas chez nous en Occident, et puis des livres dont on a fait la découverte, qu'on ne connaissait pas du tout.
Simplement, pour revenir aussi, donc ces textes religieux sont véritablement faits par la communauté qui est sur place pour vivre simplement, ou aussi pour les générations futures. Estelle Villeneuve, cette conservation, elle est à but justement conservatoire.
Quand on écrit, c'est pour conserver, de toute façon.
Ouais.
Maintenant, le fait que ça a été de fait conservé, c'est le hasard, c'est le climat, etc. Mais oui, c'est fait pour être transmis, sans aucun doute.
Oui, c'est très intéressant quand on regarde les aspects matériels des manuscrits. On se rend compte que certains, d'abord, sont de très grands gabarits, très grands formats, des belles lettres. Ça fait des rouleaux extrêmement longs. Le grand rouleau d'Isaïe, dont on parlait tout à l'heure, il fait plus de 7 mètres de long. Le rouleau du temple est plus de 8 mètres de long. Donc imaginez un peu le gabarit.
C'est presque pour des célébrations, ça, malgré tout.
Voilà, c'est ça. Donc là, on imagine vraiment un usage. C'est pas très portable. Et d'autres manuscrits qui sont beaucoup plus petits. Et on en a des nouveaux, justement, qui sont arrivés sur le marché. Et là, on se dit, c'est très compact. Ça peut facilement se mettre dans sa petite besace, dans son petit sac à dos, et ça veut dire que c'est assez transportable. Donc, à mon avis, il y avait des manuscrits qui étaient faits pour un usage personnel, y compris en déplacement, d'autres manuscrits qui étaient plutôt pour un usage sédentaire, dans le cadre de cérémonies. On peut imaginer un petit peu des lectures publiques,
d'enseignement,
etc.
Oui. Alors, Gérard Billon, vous l'avez dit, plusieurs versions. En tout cas, une fois deux versions, ça veut dire que.
Mais moi, je trouve que c'est.
Il y en a une bonne et une mauvaise, ou c'est.
Mais non, justement, elles sont toutes bonnes.
Voilà. Expliquez-nous justement ça.
Et comment
que l'écriture.
Par exemple, c'est écrit, mais
en même temps, ça se discute.
Prenons Isaïe, parce que Isaïe, je ne sais plus combien, on a quelques dizaines de manuscrits quand même d'Isaïe. On en a deux grands, puis il y en a beaucoup de fragmentaires. Alors, d'Isaïe lui-même. Alors, d'abord, Isaïe, le rouleau d'Isaïe, déjà le texte. Au moins, les exégètes nous disent qu'il y en a au moins deux, sinon trois. Donc, il y a plusieurs. Mais enfin, on a aujourd'hui, dans les éditions habituelles transmises par les Juifs d'une part et par les chrétiens d'autre part, on a un ouvrage à peu près complet qui fait 66 chapitres. Bien. De la main d'Isaïe, on n'a rien. D'abord, parce qu'on ne sait pas vraiment qui était Isaïe. On a bien un Isaïe qui est un prophète d'avant l'exil. On a peut-être quelqu'un d'autre qui a remis sa main après l'exil. Mais on n'a aucun texte original. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Nous n'avons des textes bibliques qui ont été retenus par la Bible juive ou par la Bible chrétienne, aucun texte original. Nous n'avons que des copies, des copies de copies. Et à Qumran, l'extraordinaire, alors on le savait déjà apparemment, parce qu'il n'y a pas qu'à Qumran qu'on a trouvé des manuscrits.
Et puis ça s'est fait comme ça aussi au Moyen-Âge un petit peu.
Alors ça continue après. Sauf que les textes que nous avons, c'est pas uniquement, les différences viennent pas uniquement de fautes, qui seraient des fautes de copistes. Je veux dire, je suis mal réveillé, je saute une ligne, j'intervertis des lettres, ça existe, hein, etc. Non, c'est un texte, j'allais dire, un texte mouvant. C'est curieux, je vois pas comment établir, peut-être que vous avez un... si vous avez un autre adjectif, parce que vous avez dit, Estelle, que c'est effectivement écrire, c'est fixer. Or, on fixe des variations.
Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de l'écriture, où effectivement, d'un côté, on dit l'écriture, c'est ce qui permet de fixer le texte, d'établir le texte. Or, précisément, l'écriture, elle est aussi le témoin de l'évolution du texte. Le texte, il est fluide à l'époque. Et c'est ça, la grande leçon des manuscrits de la Mer Morte, c'est qu'en fait, on se place à une période où la rédaction de la Bible n'est pas achevée. Aujourd'hui, nous, ça ne viendrait pas à l'idée de dire, oh tiens, ce verset, il n'est pas très bien formulé. Ce mot-là, je vais remplacer par un autre mot qui me paraît plus clair. Or, à l'époque, l'époque, on voit exactement c'est ça qui se passe. Alors moi j'ai travaillé, j'ai écrit un livre sur Josué chapitre 10 et dans cette histoire à un moment donné le peuple d'Israël doit marcher toute la nuit et en fait le texte original disait dans la première phase de rédaction ils ont marché toute la nuit depuis Gilgal jusqu'à Gabaon. Et puis quelqu'un derrière a remplacé le verbe marcher ou aller par le verbe monter. Ils sont montés toute la nuit. Et alors pourquoi? Bah parce que c'est vrai, quand vous regardez la topographie, on voit qu'il y a 1000 mètres de dénivelé. Donc on se dit déjà voilà toute l'armée d'Israël avec son fatra qui part à la guerre, qui doit marcher toute la nuit. Mais en plus de ça, ça montait. Ils ont dû faire 1000 mètres de dénivelé. Ça vaut le coup de le signaler. Et c'est ça qui a conduit un scribe à dire je vais remplacer un verbe par un autre. Nous on le ferait plus aujourd'hui. À l'époque, ils avaient l'entière liberté de le faire. Et même, je pense même qu'ils avaient la responsabilité de le faire. Parce qu'ils considéraient que c'était des textes sacrés et que parce que c'était des textes sacrés, il fallait les parfaire, il fallait les parachever.
En même temps, Gérard Billon, il y a des strates aussi dans les textes bibliques qui se surajoutent là, ils ont plutôt modifié.
Ah ben alors nous savons aujourd'hui que alors c'est une grande discussion sur en particulier pour les textes du Pentateuque mais c'est vrai également pour certains textes historiques pour les plus récents je suis pas sûr
forcément.
Pas forcément mais alors nous savons que les textes bibliques ont été écrits à plusieurs mains sur plusieurs dizaines ou centaines d'années. À Qumran, nous avons des témoignages d'une diversité d'écritures. Pour aller très bref et en sortant un peu de Qumran, nous avons quoi? Nous avons un autre grand texte. Faudra un jour que le monde albi fasse quelque chose sur la Septante, par exemple, hein. Parce que la Septante est un grand manuscrit.
En
un mot, c'est la version grecque. Je ne dis même pas la traduction grecque, la version grecque de la Bible.
Voilà. Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, voilà. Mais sous la Septante, il y a un texte hébreu sous-jacent. Et les savants ont essayé de reconstituer le texte hébreu. C'est ce qu'on appelle une radioversion. Autrefois, il y en a qui faisaient des versions et des thèmes. Je pense qu'on a tous fait ça. Le texte hébreu sous-jacent à la Septante, on a par exemple pour les livres de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, on a également une version samaritaine, gardée pieusement par les Samaritains. Les Samaritains, il y a une rupture vers le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ avec le judaïsme officiel. C'est un texte encore un peu différent. Et à Qumran, on a encore trouvé à Qumran, on a des textes qui se rapprochent du texte sous-jacent à la Septante, des textes qui se rapportent, qui sont plus proches du texte dit samaritain, et on en a encore un autre qui va devenir ensuite le texte officiel des Juifs, le texte massorétique. On a ici au moins trois sources. C'est déjà trois rivières. Hein. Et puis, ces trois rivières vont... Quelle est la bonne? Moi, j'en sais rien. Tout à l'heure, Michael, quelque chose t'a échappé, te dit le texte original de Josué. Je suis pas sûr qu'il soit original, en l'occurrence.
Hein. Ah, si, ça c'est ma conviction. Pour le croire, il suffit de lire mon livre qui s'appelle Le texte de Josué.
Voilà. Je pense que n'hésitez pas à l'éditeur, allez-y, dites-le aussi.
C'est Vandenhoek et Ruprecht.
Voilà, c'est ça. On pourra le retrouver. Ça veut dire, Gérard Billon, si je vous suis bien, c'est qu'il n'y a pas une vraie version, mais il y a plusieurs éléments qui peuvent, éclairer le texte
et
de façon
sont
différente.
Et ce sont ensuite les communautés juives d'une part, chrétiennes d'autre part, qui vont fixer un texte qui va devenir le texte officiel, texte massorétique pour les juifs, donc un texte hébreu et sans billet qui va. Non, on a le gros, mais le premier grand témoignage du texte massorétique, c'est 10e siècle après Jésus-Christ. Hein. Qumran, on est bien avant. Et l'intéressant, c'est de comparer le texte officiel massorétique en hébreu avec les textes de Qumran et de voir justement les variations. Michael a très bien expliqué ça tout à l'heure sur Josué. Mais c'est valable pour tous les textes du Pentateuque, pour les psaumes. Quand on compare certains psaumes trouvés à Qumran avec le psaume tel qu'il est présent dans la Septante, cette fois-ci en grec, avec les psaumes qui est celui du texte massorétique, on se dit, quand même, c'est-il la même chose ou pas? On voit bien que, j'allais dire, le mouvement d'ensemble est le même. Les mots ou la disposition des mots, parfois même la théologie, n'est pas tout à fait la même. Ça, c'est un petit peu troublant, mais ça dit quelque chose. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, là, c'est le théologien qui cause ce cas-là. Hein.
Mais ça veut dire que quand vous voyez les trois ou quatre versions différentes, ça vous rend perplexe ou au contraire, ça enrichit votre lecture?
Ah non, ça enrichit la lecture tout à fait pour se dire ensuite que vous allez avoir une communauté qui va se dire, eh bien, je prends parti, mais c'est après tout un coup de dé. Je prends parti pour tel texte.
Thank you.
Avinu Melkeinu, c'est Barbara Streisand qui chantait Qumran 70 ans après sur RCF. On en parle avec Gérard Billon, Michael Langlois, Estelle Villeneuve et Benoît Sagazan. Quand je dis 70 ans après sur RCF, les manuscrits de Qumran ne sont pas à RCF, mais on en parle aujourd'hui. Alors tous ces manuscrits, on l'a dit, il y a un peu plus d'un millier. On va laisser les scientifiques bien classifier, j'imagine, toutes les découvertes. Michael Langlois, tous ces manuscrits sont étudiés, décryptés, rendus publics, accessibles à tout le monde, ou en tout cas au moins au monde scientifique?
Eh bien, la réponse est non. Contrairement à ce qu'on dit souvent, en fait, l'immense majorité de ces manuscrits a effectivement été publiée. Et il y a même des photos disponibles sur Internet. Voilà, donc tout est ouvert au grand public. Mais en réalité, il reste des manuscrits dans des collections privées, y compris chez l'antiquaire qui jouait les entremetteurs déjà dans les années 50, qui a des manuscrits qui ne sont pas encore publiés et dont j'ai connaissance. Donc je peux vous en parler parce que je les connais, ces manuscrits.
Mais vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter. Pour vous faire une petite collection personnelle, j'imagine. En même temps, il y a les moyens scientifiques maintenant de bien identifier justement ces manuscrits.
Oui, alors on dispose aujourd'hui de technologies que j'ai développées déjà il y a une dizaine d'années déjà. Ça ne nous rajeunit pas
ça
tout
passe
ça.
Vite.
Mais effectivement, j'ai développé des outils informatiques qui permettent d'améliorer à la fois l'identification, la lecture, la reconstruction de ces manuscrits. Et j'ai perfectionné ces techniques. J'ai formé l'équipe norvégienne quand on a publié les manuscrits donc d'une collection privée en Norvège. Tout ceci a été publié il y a quelques mois seulement, donc c'est tout frais. Et donc vous pouvez regarder ce que ça donne, c'est très très impressionnant. On arrive comme ça à faire dire beaucoup de choses à des petits fragments, parfois des petits traits de lettres seulement, qui peuvent être pertinents pour la meilleure compréhension de la Bible, du monde de la Bible, de toute la littérature juive ancienne.
Mmh. Estelle Villeneuve, j'imagine que les archéologues ne vont pas s'arrêter là, il y a encore peut-être des choses à découvrir.
Mais les archéologues ne se sont jamais arrêtés en réalité.
Voilà.
Des prospections sont faites régulièrement. Depuis que la mission internationale dirigée par le père Deveau, qui s'est arrêtée à la fin des années en 56, ils étaient arrivés à 11 grottes ont livré des manuscrits.
Visités.
Mais des grottes anthropiques, ce qu'ils appellent les grottes, c'est-à-dire avec des signes d'occupation humaine. Il y en avait 41. Il a été, l'annonce de cette grotte qui a été faite, de cette nouvelle grotte qui a été faite en février.
Tout récemment.
Est la 52e grotte anthropique. Alors, dans la presse, un peu partout, vous entendrez parler de la grotte 12. Pourquoi la grotte 12? Parce que le fouilleur a suggéré que, puisque c'était une grotte qui avait un jour contenu des manuscrits, on devait pouvoir l'appeler à la suite des 11 premières grottes livrant les manuscrits. Ma réponse est non, on ne peut pas l'appeler parce qu'elle n'a pas livré de manuscrits.
Donc c'est la grotte 52
grotte 52, certainement. La question est de savoir si c'est une grotte qui a effectivement eu contenu des manuscrits. Et dans ces cas-là, on devrait pouvoir l'appeler la grotte numéro 27 parce qu'il y a 26 grottes identifiées dont les soupçons forts sont sur la présence un jour de manuscrits qui ont été retirés dès l'Antiquité ou plus récemment.
Alors, ça veut dire dans cette grotte, cela dit, d'après les fouilleurs, ils ont trouvé un bout de manuscrit.
Oui.
Et donc, alors moi je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas allé à Jérusalem ces dernières semaines, mais il semblerait...
Un bout de manuscrit en épigraphe.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est un bout de cuir préparé pour un jour être inscrit, mais qui n'a pas été inscrit.
Ou qui a peut-être été inscrit, ça peut être la marge d'un manuscrit. Donc en fait, disons qu'il y a effectivement une polémique autour de cette question, de savoir effectivement est-ce qu'il faut ou non l'appeler la grotte 12 parce que est-ce qu'il y avait ou non des manuscrits ou pas. À mon avis, le vrai problème avec cette histoire, c'est que c'est d'abord un coup de pub énorme et surtout c'est une façon de dynamiser le marché de l'Antiquité, de relancer le marché des Antiquités. Comme je disais tout à l'heure, il y a des fragments sur le marché. Certains sont authentiques, je peux en attester. Pour d'autres, je peux au contraire affirmer que ce sont des faux, y compris une collection entière, plusieurs collections entières américaines. À mon avis, ce sont tous des faux et ça veut dire qu'il y a des gens qui dépensent des millions de dollars pour acheter des faux manuscrits. Alors avis à nos auditeurs, si certains avaient compté débourser quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions, contactez-moi avant, demandez-moi mon avis et puis...
Vous aurez une expertise.
Voilà.
Ça veut dire que, bon, bien sûr, il y a des enjeux archéologiques, historiques, théologiques, mais aussi économiques, politiques.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est, on voit les enjeux. D'abord, le site de Qumran lui-même a été l'objet de toutes les convoitises politiques. Il faut savoir que quand le site était fouillé, au départ, c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça faisait partie du royaume de Jordanie, l'ancien mandat britannique. Donc après ça, c'était ensuite ça s'était rattaché. Enfin, c'est très compliqué. Aujourd'hui à l'UNESCO, il y a trois revendications. Le site de Qumran est protégé à la fois par les Jordaniens, les Palestiniens, les Israéliens. Donc tout le monde réclame la paternité du site de Qumran, et comme c'est un patrimoine du judaïsme ancien, les Israéliens sont très actifs pour valoriser ce patrimoine.
On peut peut-être rappeler que d'après les accords d'Oslo, c'est en zone C, c'est-à-dire sous le contrôle et la gestion et l'administration israélienne, mais c'est un territoire palestinien. Donc c'est vrai que
ça complique aussi la gestion.
Ça complique la chose.
La gestion du lieu. Gérard Billon, alors déjà aussi, il y a beaucoup de choses autour des manuscrits. On dit parfois qu'on nous cache quelque chose parce qu'effectivement, tout n'est peut-être pas publié. Quand on est, je m'adresse aux prêtres, aux théologiens, quand on est chrétien, quand on est croyant, il faut pas avoir peur de travailler justement sur ces informations un petit peu contradictoires, un petit peu floues qui nous arrivent autour des manuscrits.
Pourquoi auriez-vous peur, Christophe?
J'ai pas forcément peur, mais je veux dire, est-ce que ça remet... vous aviez dit la Bible est arrêtée à un moment, le texte est figé.
Non, j'ai pas dit que le texte était... Si, alors j'ai...
Et qu'on apprend autre chose par là. Donc
nous avons la communauté, les Juifs d'une part, les chrétiens d'autre part, ont aujourd'hui un texte qui est un texte fixe. Le texte que nous utilisons, en fait, il a jamais comme tel existé, puisque c'est le résultat d'études. Non, je parle ici des textes en hébreu, des textes en araméen ou des textes en grec. Ce sont des textes qui sont reconstitués, mais je veux dire, il y a un consensus qui s'est fait sur des textes, et c'est ça qui est aujourd'hui la Bible, base de la parole de Dieu que l'on peut lire, méditer, étudier, commenter. Maintenant, je trouve extrêmement intéressant que, sachant que nous avons ces textes hébreux, araméens ou grecs, qu'on puisse faire la génétique de ces textes-là. Et c'est là où interviennent les découvertes de Qumran. Il n'y a pas une autre découverte de l'Antiquité. On a des manuscrits en Égypte, on a des manuscrits en Syrie, mais on n'a pas autant de textes. Vous avez dit un millier de manuscrits, il y en a 200 ou 300 qui sont bibliques. Il n'y a pas un lieu dans lequel on est...
Ça ne change pas notre foi.
Ah non, ça ne change absolument pas la foi. Je dirais même ça l'enrichit dans la conception que la Bible, elle est parole de Dieu à travers, par les paroles d'hommes, et j'allais dire, même par ce que font les êtres humains. Un tout petit mot, Charles Péguy, à un moment donné, quelque part dans sa réflexion, il nous dit que, finalement, pour que l'incarnation fût pleine et entière, il fallait également que sa transmission fût faillible. Je ne connais pas exactement ces termes.
En tout cas, humaine. Voilà.
Je trouve ça extraordinaire. Il dit ça au début du 20e siècle. Autrement dit, que y compris les erreurs de transmission, y compris les variations de transmission, ça fait partie de l'histoire de la parole de Dieu.
Merci. Alors voilà, de Qumran à Péguy, on aura fait un bon balayage historique autour de Qumran. Merci Gérard Billon, Michael Langlois, Estelle Villeneuve et Benoît de Sagazan. Benoît, simplement, le monde de la Bible, ça c'est donc le numéro autour de Qumran.
Numéro de printemps, voilà, qui sort au printemps l'anniversaire.
Et exactement. Puis aussi des livres électroniques, toujours.
Tout à fait, voilà. Et puis ce numéro a été fait quand même en partenariat avec l'Université de Lausanne, avec qui un colloque est organisé sur ce thème de la découverte de Qumran.
On retrouve le colloque, les coordonnées du colloque sur votre site.
Exactement, et dans la revue, effectivement.
Et dans la revue. Et les numéros, les livres... Numérique, les mythes, c'est
les deux derniers qui sont sortis, les héros dans la Bible, découvrir autrement les héros dans la Bible et découvrir autrement les mythes.
Voilà, la Bible, quelles histoires, Thomas Romer, c'était les entretiens menés par Estelle Villeneuve chez Bayard, et puis 539 mots pour goûter la Bible, Gérard Billon, paru chez MAM en 2016. Merci à Antoine Picot qui était à la régie, à Florence de Saint-Preux qui m'aide à préparer chaque semaine cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rcf pour l'écouter en podcast. Bonne semaine.